L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 19 novembre 1978. Il est 3h29 du matin. Dans sa chambre de la Maison Blanche, le président des États-Unis dort paisiblement. Dans un peu moins d'une minute, l'un de ses conseillers qui a reçu un télégramme de la CIA le réveillera. Une grande nouvelle vient de tomber. Jim Jones, le gourou du temple du peuple, a commis l'irréparable, l'indescriptible, l'inimaginable. Son âme damnée, accompagnée de celle de 916 autres innocents, a basculé dans les limbes. Le monde entier bientôt fera face à la réalité de l'horreur. Comme il est d'usage, dans ce genre de cas, le président de la plus puissante nation du monde est le premier à apprendre la nouvelle. 3h29, l'heure âge de mon histoire. La CIA rapporte un suicide de masse à Jonestown. À la lecture de ces quelques mots, Jimmy Carter, dans ses pantoufles et sa robe de chambre en satin, s'assoit lourdement sur sa chaise du bureau ovale. La mèche en vrac, il comprend tout de suite la gravité d'une situation qui aura échappé de bout en bout au gouvernement américain. « Foutu Jim Jones », pense-t-il. Les mains sur les tempes, il décroche le combiné de la ligne privée du bureau présidentiel et compose le numéro privé, lui aussi, du directeur de la CIA. À l'autre bout du fil, les yeux mi-clos, le réveil est brutal. Jimmy Carter, qui n'a encore reçu aucun détail, en demande à son subordonné. Ce dernier ne peut éluder la question. Rassemblant les souvenirs de la conversation téléphonique qu'il a eue quelques heures plus tôt avec l'un de ses agents, il éclaircit sa voix et commence le morbide énoncé des faits. C'est le début de la journée, au cœur de la secte de Jonestown, en Guyana, enclave du Commonwealth en Amérique du Sud. Nous sommes donc sous les tropiques. L'humidité au mois de novembre y est bien présente. Jonestown, ville créée de toutes pièces par la volonté d'un seul homme, se trouve à 9 km de la première petite cité portuaire. Les membres de la secte qui résident y sont donc considérablement isolés, à la merci de Jim Jones, révérend de son état. Il est aussi leur gourou par la même occasion. Il est le berger d'un peu moins de 1000 personnes, majoritairement américaines. Ces personnes ont quitté leurs racines et l'ont suivi par conviction religieuse, par amour aussi. Mais depuis plusieurs jours, le chef de meute est particulièrement inquiet. Son flegme naturel s'effrite. Leo Ryan, un représentant des autorités américaines qui suit les activités du mouvement depuis longtemps, est sur le sol du Guyana depuis 72 heures. Il est venu chercher les fidèles qui souhaitent abandonner Jones. Ils sont partis ensemble il y a une heure, direction l'aéroport. Certes, les défections n'ont pas été nombreuses, moins de 50 en tout. Mais pour Jones, c'est une catastrophe. Alors, il a mandaté un de ses fidèles lieutenants pour rejoindre le convoi avec une mission bien précise. Les fugitifs de la secte allaient révéler tous ses secrets. Il ne pouvait les laisser faire et Dieu ne le permettrait pas. Sur le tarmac, autour de deux avions plats craqués de candidats au départ, Leo Ryan et plusieurs journalistes sont assassinés par balle. Cela marque irrémédiablement pour Jones et les siens la fin du temple du peuple. On va nécessairement lui demander des comptes, procès, révélations, condamnations. Tout cela est impossible à envisager. Alors pour lui, comme pour la communauté, l'heure du jugement dernier a sonné, ce 18 novembre 1978. Dans l'après-midi, Jones a demandé aux infirmières du camp de préparer un breuvage spécial qui sera distribué pendant la messe à venir. Le suicide collectif est depuis longtemps une thématique défendue par le gourou. Il appelle ça un suicide révolutionnaire. Il s'agit de la vengeance du temple face aux quelques dizaines de défections. Durant un peu plus d'une heure, les infirmières mélangent donc du cyanure de potassium avec de la limonade bon marché. Puis, tout le monde est rassemblé sous le hangar principal, Jim Jones à la tribune est religieusement écouté. Dans l'assistance, les lieutenants distribuent les gobelets en plastique remplis de poison. Sans aucun élan particulier, le gourou annonce que le temps de l'action révolutionnaire est venu. Il prépare son coup depuis longtemps. Et son idée est la suivante. Il faut d'abord que les parents empoisonnent leurs propres enfants. Il estime que ces derniers sont moins loyaux, et surtout que les parents qui ont vu mourir leurs enfants n'ont alors plus aucune raison de vivre, et que donc, leur docilité sera à toute épreuve. Lentement, les mères donnent à boire aux jeunes du groupe. La mort par ingestion de cyanure n'est pas la plus jolie à voir. Convulsions, écume aux lèvres, étouffement, yeux exorbités. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, les pères et les mères qui tuent leurs enfants ressortent brisés de cette expérience. Rien. Rien n'est plus destructeur. Jim Jones, sa femme et son fils à ses côtés, ne bronchent pas. Certains se jettent à ses pieds, implorant la pitié du sauveur. Pour seule réponse, caché derrière ses lunettes de soleil, il les toise mollement. Les enfants pleurent, hurlent et se meurent. Lui, dressé derrière son pupitre, jubile dans ce chaos. Son moment est enfin arrivé. Avant même que les derniers soupirs des jeunes du groupe n'aient eu lieu, il ordonne aux mères de leur emboîter le pas. Machinalement, docilement, l'extrême majorité boit à son tour. L'une d'entre elles, âgée de 60 ans, tente de le faire changer d'avis. Elle développe des arguments, cherche à sauver les derniers enfants. Chaque fois, Jones refuse, et elle finit elle aussi par céder. En voyant les petits mourir, la propre femme du pasteur lui hurle qu'il ne peut pas faire ça. Tout le monde a cru au départ à une de ces simulations habituelles de suicide, organisées pour briser les disciples. Mais aujourd'hui, les gens meurent vraiment. L'agonie des enfants et les cris répétés provoquent un vent de panique. Certains tentent de courir vers l'extérieur de la tente, mais sont rattrapés, piqués dans le dos avec des seringues remplies de poison. On force les autres à boire. Sa femme et son fils sont abattus par le pasteur lui-même. Il meurt aussi ensuite, également par balle. Dans ce chaos innommable, certains ont négocié leur fuite ou réussissent à s'échapper. Ils s'en vont immédiatement prévenir les autorités, mais le mauvais temps empêche l'arrivée des secours sur place. Dans l'immédiat, personne ne peut rien faire. Il faudra attendre le lendemain matin. Et les pères de famille, alors dans tout ça, me direz-vous? Ils sont abattus par balles ou tués par le poison. Car c'est le paradis qui les attend. Puis, la résurrection. Qui est en mesure de refuser la vie éternelle? Ils ont pour la plupart une confiance aveugle en Jim Jones qui les rassure en prenant la parole une dernière fois. À la fin de son récit, le directeur de la CIA a la voix tremblante et cherche ses derniers mots. À l'autre bout du fil, Jimmy Carter, lui, est bouche bée. Pris de nausée, à haut le cœur au bord des lèvres, le président raccroche sans dire un mot. Il retourne se coucher pour tenter de finir sa nuit. Perturbé, il repense à son arrivée au pouvoir l'année précédente et à ce dossier brûlant laissé par son prédécesseur sur le bureau ovale. Celui de Jim Jones et du temple du peuple. Cette histoire débuta bien longtemps avant leur arrivée à tous les deux. En réalité, la CIA rend compte à la Maison-Blanche des actions de ce gourou depuis le milieu de la décennie 1950. Le président du pays était alors Dwight Eisenhower, l'un des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais rien, vraiment rien, à ce moment, ne pouvait laisser présager du bain de sang qu'il doit, lui, Jimmy Carter, assumer ce soir. En fermant les yeux, il est aussi terrorisé que lorsqu'enfant, il imaginait un monstre sous son lit. Sans trouver le sommeil, il replonge dans ses souvenirs les plus anciens au sujet du temple du peuple. Il est donc, tout naturellement, conduit à Indianapolis, dans l'Indiana, à la fin d'un printemps particulièrement chaud et ensoleillé, celui de 1955. Au cœur du poumon économique américain, l'État de l'Indiana est un fleuron de ce que représente encore le rêve américain après la Seconde Guerre mondiale. Dans un break Ford rutilant grâce à un V6 aussi rugueux que sauvage, un jeune homme de 24 ans se gare en face de l'église dans laquelle il officie. Il s'appelle Jim Jones. Il est pasteur, grand, beau, charismatique. Il ne quitte jamais ses lunettes de soleil ultra teintées qui camouflent la direction de son regard. Dès l'âge de 13 ou 14 ans, il jouait déjà au prédicateur avec les enfants et ses sermons pouvaient durer jusqu'à 2 heures. C'est à ce moment-là qu'il a forgé sa réputation et expérimenté la manipulation des esprits faibles. Pourtant, marié à 19 ans à une infirmière pieuse, il a soudain viré de bord, rejoignant les rangs communistes. Il qualifie alors Dieu d'être imaginaire et quitte tout ce qui touche au religieux. Il y revient par la suite, voyant d'un bon œil le fait de devenir pasteur. D'abord méthodiste, il devient pentecôtiste. Les aspects spectaculaires de cette branche du protestantisme l'attirent comme un aimant. Les cérémonies de guérison miraculeuses, les prêches enflammées, tout semble ici lui correspondre. Il tisse sa toile, anticipant chaque fois les choses avec un coup d'avance. Aujourd'hui c'est le moment. Depuis l'année précédente, il est exclu de l'Église. La raison ? Notre homme prône la naissance d'un mouvement religieux où noir et blanc cohabitent sans distinction de race. L'Indiana des années 50 n'y est pas préparé. Les propos intégrationnistes de Jones lui valent d'abord un blâme, puis un départ forcé. Sa seule option est alors de fonder son propre mouvement religieux. L'Église protestante de l'Indiana l'ignore encore, mais elle vient de créer un monstre. À ses débuts, en 1955, le temple du peuple n'est le lieu de rassemblement que de peu de gens, blancs pour la plupart, issus du même quartier. Rien de transcendant donc. Mais l'année suivante, la popularité du mouvement auprès des Afro-Américains va croissante. Jim Jones a l'idée de génie d'organiser une convention religieuse avec l'une des plus célèbres figures religieuses rattachées aux Noirs. C'est le succès assuré et surtout, Jones se rapproche alors d'Archie James, un défenseur des droits civiques. Il sera pour lui un précieux allié dans la suite des événements. Le gourou n'attendait que l'étincelle pour développer ses thèses communalistes. L'idée est simple, tout le monde se débarrasse de ses biens matériels au profit du mouvement. En échange, Jones s'engage à prendre soin de tous. Certains commencent à abandonner leur emploi pour se consacrer pleinement au temple. Les époux Jones décident de lancer des campagnes de recrutement. Pour ce faire, ils proposent des soupes populaires et créent une fondation grâce à laquelle on ouvre des maisons de retraite dans toute l'aire urbaine d'Indianapolis. Pour y travailler, il faut être un membre du temple et le confort est la priorité de ces installations. En 1958 et 1959, le couple à la tête du mouvement adopte 2 orphelins de la guerre de Corée. Leur première fille, Stéphanie, décède dans un accident routier en 1959. Les époux donnent naissance à leur seul enfant biologique et adoptent pour finir la petite sœur de Stéphanie et un enfant noir. C'est le premier cas d'adoption par des blancs d'un enfant de couleur dans l'Indiana. Au début de la décennie 1960, la fratrie compte donc 4 membres, une fille et 3 garçons. Au cœur de l'été 1959, Jones rencontre un autre gourou duquel il va considérablement s'inspirer. Les membres de cette autre secte sont logés mais non rémunérés. Toutes les entrées d'argent vont dans les caisses de l'église. Pour Jones, c'est une révélation. Loger et nourrir les adeptes permet de justifier l'appropriation de tous leurs biens, y compris financiers. L'idée du temple du peuple, comme il l'imagine depuis le départ, prend forme. La fin de l'année 1960 est synonyme de volonté de changement pour le gourou. Il se lasse de son public majoritairement blanc. Il vise maintenant un autre type d'audience, plus afro-américain. Il faut pour ce faire changer de zone. D'un coup de tête, il se rend à Cuba et recrute là-bas 40 familles qu'il fait venir dans l'Indiana. Il leur promet en échange un travail dans les champs du temple. En octobre 1961, l'homme de Dieu a une vision. il voit que deux bombes atomiques vont tomber sur Chicago et Indianapolis. Alors pour éviter cette catastrophe, il décide de déménager. Après de nombreuses discussions, dissensions internes et premier conflit, c'est la Californie qui est choisie. Les Jones et 140 de leurs fidèles y déménagent au début de l'année 62. Dans la tête du gourou, déjà, l'idée d'une migration vers l'étranger est en train de germer. Cette décennie 60, annoncée prometteuse et porteuse de projets, est plutôt un temps d'arrêt pour les aspirations de Jones. La ville dans laquelle emménage le temple est pourtant ravie de les accueillir. Mais de gros soucis d'argent contraignent sa femme à reprendre un travail en milieu hospitalier et lui-même doit donner des cours à temps partiel. Et ce n'est pas tout. Il espérait changer le profil de ses recrues, mais l'aire urbaine dans laquelle ils arrivent est en réalité quasi totalement blanche. À ces deux freins s'ajoute la méfiance de certains habitants qui commencent à remarquer des comportements pour le moins étranges de la part du mouvement. On contraint les pensionnaires des maisons de retraite et ceux de l'institut psychiatrique à suivre les cérémonies rituelles. Des traces de martinets sont signalées sur certains enfants et d'autres supplient qu'on augmente leurs notes afin d'éviter les coups de fouet. Amphétamines et tranquillisants deviennent le quotidien de Jim Jones qui en devient dépendant. Les liens de la famille Jones se délitent, ce qui renforce le sentiment global de tension. Les relations entre deux des fils du gourou sont compliquées, l'un reprochant à l'autre d'être le fils biologique du couple. Caroline Layton, une fidèle, devient la nourrice des enfants et la maîtresse de leur père. En 1974, pendant que Jones humilie sa femme en se vantant de ses aventures extra-conjugales durant ses sermons, Caroline disparaît 6 mois et revient avec un nouveau-né. Il ne fait aucun doute que Jones en est le père et qu'il a isolé sa maîtresse chez ses parents pendant sa grossesse. Pourtant, il invente pour ses fidèles une sordide histoire de kidnapping et de torture par la CIA. Tout ça est faux, bien entendu. Mais l'agence dans tout ça, surveille-t-elle réellement Jim Jones qui se sent persécuté par elle depuis ses débuts? Assez peu au départ en réalité. Les premiers avertissements de la population aux autorités centrales déclenchent un drapeau rouge du côté de l'agence qui renforce sa surveillance dès le début des années 1970. Auparavant, le Temple du Peuple n'était pas plus surveillé que d'autres mouvements protestants, bien que considérés comme légèrement déviants. Néanmoins méfiant, Jim Jones et ses disciples déménagent une nouvelle fois à San Francisco sans réelle préparation. Il prend le soin d'ouvrir en parallèle une antenne à Los Angeles. C'est à compter de 1975 que la secte va véritablement prendre un essor qui ne s'achèvera que dans le sang 3 ans plus tard. Chacune des antennes existe pour des raisons bien différentes. L'objectif de Jones à San Francisco est de se rapprocher du pouvoir politique. À Los Angeles, place au recrutement de gens pauvres et aux dons venant des quartiers aisés. Rapidement, c'est un succès de part et d'autre. Jones et sa femme officient dans les deux congrégations, à tour de rôle, évitant ainsi de se croiser. Les actions caritatives du temple se multiplient. Il reçoit le soutien de nombreuses personnes influentes dans le combat des droits civiques notamment. Tout semble au beau fixe. Et puis, pour couronner le tout, Jim Jones accède à un poste politique à San Francisco, comme il l'espérait. Nommé nouveau président de la commission des logements de la ville, il est ravi. C'est à partir de ce moment-là que ses liens avec l'épouse de Jimmy Carter, futur président des États-Unis, se développent. Il prend l'habitude d'organiser des voyages en bus remplis de fidèles pour se rendre aux meetings. En 1976, un magazine voit le jour, alimenté par le Temple et qui raconte les exploits de Jim Jones. Là aussi, le succès est au rendez-vous. Mais après le soleil, vient la tempête. Celui qui se fait appeler « papa » par ses disciples, afin d'accroître sa proximité et son emprise, devient rapidement la cible de commentaires négatifs. Jim Jones est accusé de forcer certains jeunes hommes à avoir des relations sexuelles avec des femmes de la communauté. Il ferait subir des sévices physiques ou des humiliations à celles et ceux qui ne respectent pas les règles. Une garde privée du temple est créée, composée majoritairement de femmes blanches et de gens dont Jones se méfie et qu'il veut surveiller. Tous les membres de la secte sont alors forcés par Jones de confesser par écrit de très graves crimes qu'ils n'ont pas commis. Viol d'enfants, volonté d'assassiner le président, tout y passe. Ainsi, le pouvoir sur les adeptes du temple est total. Bien que pasteur, il se revendique être la réincarnation de Lénine, critique la Bible et les Saintes Écritures. Dès 1972-1973, la presse californienne enquête et critique le temple du peuple. Augmentant sa surdose de médicaments, c'est à cette période que Jones envisage un départ à l'étranger. Pour cela, il doit éprouver la loyauté de ses fidèles. Au nouvel an 1976, il convoque sa garde rapprochée, une centaine de personnes. Il les autorise à boire du vin, entorse au règlement de la secte qui stipule que ni alcool ni drogue ne sont autorisés. Pas mal pour un toxico. Une fois leur verre bu, il leur annonce qu'il y a versé du poison. Après plus d'une heure, et alors que personne n'y trouve rien à redire, il annonce que c'était un test. Côté famille, ça ne va pas mieux. Son plus jeune fils fait 2 tentatives de suicide et Jones, de son côté, tente de faire passer sa femme pour folle, afin de l'isoler. À cette époque, les autorités, elles aussi, commencent tout doucement à s'intéresser de près au temple. Dans le collimateur du fisc pour des soucis de trésorerie, de la CIA pour ses déviances de plus en plus notables, Jones sent l'étau se resserrer autour de lui. Le gourou est alors contraint d'annoncer le déménagement de la plus grande partie des fidèles en Amérique du Sud. Depuis 1973, il les prépare à ce moment, celui du screeching halt, celui de la fin brutale, où révolution et bain de sang ne feront plus qu'un.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons l'heure H de la secte du Temple du Peuple, incarnée par son gourou, Jim Jones. Alors qu'il est accusé de magouilles financières et de sévices physiques sur ses membres, la seule solution viable qu'il envisage est un déménagement à l'étranger, dans un pays sur lequel la CIA ou le FBI ne pourraient pas avoir d'emprise. Le grand départ s'organise. La fin, morbide et spectaculaire aussi. Devant le nombre croissant de plaintes, Jones suggère dès la fin de l'année 1972 la nécessité de changer de pays pour s'ouvrir au monde. En 1960, il a visité le Guyana, petit état pauvre dans lequel règne une corruption massive. Il y a vu un point d'ancrage potentiel. Il fait donc voter en octobre 1973 le déménagement d'une majorité de la communauté. Dès la fin d'année, une partie des fidèles et lui se rendent sur place. Le choix du Guyana s'impose de lui-même. Ancienne colonie britannique, on y parle l'anglais. La population est noire en majorité et a tendance socialiste, ce qui va dans le sens des idéaux communistes du gourou. De plus, le pays est ravi de vendre ses terres aux colons californiens qui arrivent avec argent et ambition. De manière purement géopolitique, l'occupation de ces terrains va empêcher le Venezuela voisin de tenter quelque chose pour se les approprier. Le nom de Jonestown s'impose. L'astucieux papa Jim ordonne à une membre de la secte de se lier à l'ambassadeur du Guyana aux États-Unis. Ils tomberont réellement amoureux et auront un enfant. Ainsi, les liens entre le couple et Jones inciteront l'ambassadeur à intercéder en sa faveur lorsque ce sera nécessaire. Un petit groupe de pionniers, majoritairement composé de personnes ayant eu des démêlés avec la justice américaine, partent sur place pour préparer les 1500 hectares de terrain dont le temple est désormais propriétaire. La surface, énorme, est vierge de tout. En même temps, Jones négocie avec le gouvernement du Guyana afin de faire immigrer près de 500 personnes sans devoir passer par les demandes officielles de visa. Corrompus, les gouvernants se laissent graisser la patte à coups de millions et de millions de dollars. Jim Jones, alors bouffé par les médicaments, voit son rêve se réaliser et prendre l'ampleur qu'il souhaitait. C'est prévu qu'une partie de l'organisation reste sur le sol californien, toujours à San Francisco et à Los Angeles. Leur réseau d'influence présente la colonie agricole du Guyana comme un simple village collectiviste d'inspiration communiste. Ils expliquent aussi que les habitants sont uniquement des volontaires. Mais à l'époque, aux États-Unis, il est une chose pire que d'être noir. C'est d'être communiste. Devant les aspirations socialistes de cet homme aux bras de plus en plus longs, l'administration américaine prépare sa riposte. Sournoise, calculée, elle va pousser Jim Jones dans ses derniers retranchements. En 1977, lui et sa famille ont immigré au Guyana. Il y réside de manière quasi continuelle. Plus de 1000 personnes les entourent au sein d'une société voulue idéaliste. Mais certains fidèles tombent déjà des nues. Malnutrition, baraquement en mauvais état, travail forcé. Le paradis, promis par le gourou, a des allures de purgatoire. En février 1976, le gouvernement du pays accepte de louer près de 11 000 hectares en plus de ceux acquis par le temple contre une somme symbolique. Les premiers mois sont pourtant difficiles. Recommençant ses faux cultes de guérison miraculeuse, Jim Jones attise la colère des membres du temple qui croyaient le temps de ses fausses pratiques révolues. De plus, les autres congrégations, découvrant le poteau rose, ferment définitivement leurs portes à Jones. Ce n'est qu'en 1977, soit après plus de 3 ans de travaux, que la cinquantaine de pionniers sont rejoints par tous les autres. Le pavillon central, en gare au toit de tôle et sans mur, se trouve au cœur de la colonie. C'est à cet endroit qu'aura lieu le massacre l'année suivante. Tout autour, des bâtiments servent d'école aux enfants. Tous les habitants y suivent également des cours de russe, car l'espoir d'une immigration prochaine en URSS est grand. Les 5 plus proches dortoirs autour du centre sont aussi les plus grands. On y regroupe les femmes célibataires, les vieillards, ainsi que les enfants difficiles. Enfin, s'étend le reste des baraquements. La terre promise apparaît en définitive assez peu fertile et très dure à cultiver. Les arbres fruitiers donnent peu, et pour pêcher, 11 km de marche sont nécessaires. C'est l'enfer vert. Les fidèles sont obligés de se mettre au travail agricole. Ils n'ont droit qu'à une douche de 2 minutes à l'extérieur après leur journée de travail et doivent trimer plus de 11 heures par jour. Drôle de paradis. Certains se lassent. Devant la rébellion qui couve, Jones cherche la parade magique. En août 1977, il tire lui-même des coups de feu dans la jungle et revient en annonçant qu'un sniper de la CIA a tenté de le tuer. Il fait réveiller tous les fidèles. À compter de ce moment-là, il entretient cette paranoïa ambiante en provoquant de nombreux réveils nocturnes. Au printemps suivant, 6 mois avant le massacre, ces nuits blanches sont devenues des habitudes du quotidien. Jim Jones va encore plus loin et commence à leur faire boire du jus de fruits soi-disant empoisonné. Il met chaque fois plusieurs heures avant de revenir sur ses propos. Tout est bon pour maintenir cet état de peur panique. En cas de désobéissance, il prévoit des décharges électriques ou un enfermement au fond d'un puits abandonné pour les plus jeunes, des humiliations publiques et des sévices pour les autres. 8 personnes décèdent, toutes de causes naturelles, entre 1977 et 1978. Mais beaucoup d'autres sont drogués, soit des femmes refusant les avances sexuelles du gourou, soit des hommes tentant de s'échapper. Ils sont très peu à vouloir le faire. Et la majorité des autres est retenue par la surveillance des autres membres. À cette époque, l'espoir d'un départ vers Cuba ou l'URSS devient illusoire, tant ces pays montrent des réticences à les accueillir. Au sein de la famille Jones, la résistance s'organise. Ses fils et sa femme semblent d'accord pour le tuer. Mais face à la difficulté de mise en œuvre d'un tel projet, la petite bande finit par abandonner. Stephen Jones est le plus opposé à son père. Il n'hésite pas à s'en prendre ouvertement à lui pendant des cérémonies. Mais lui, le gourou, n'a plus cure de rien. Le médecin de la colonie lui a annoncé une infection mycosique progressive et ne lui donne plus que quelques mois à vivre. Drogué au barbiturique, sa voix devient rauque. Il perd des mots. Parfois, n'arrive même plus à déchiffrer ses notes écrites. Le mythe s'effrite et le chef de meute, qui sait que l'heure du chaos a sonné, attend patiemment le bon moment pour appuyer sur le détonateur.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H navigue en eau trouble pour suivre la vie et la mort de l'une des plus grandes sectes que l'Amérique ait jamais connue, le Temple du Peuple. À sa tête, le révérend Jim Jones. Poussé toujours plus loin par sa folie, perdant totalement le contrôle à cause d'addictions de plus en plus pressantes, il part avec la grande majorité de sa communauté s'installer au Guyana, petit pays d'Amérique du Sud. Mais alors qu'il a présenté ce petit bout de terre comme un coin de paradis à ses disciples, la réalité tout autre provoque des désillusions. La machine judiciaire des États-Unis, elle, implacable, va accélérer la chute d'un homme qui n'attend que ça. La gloire dans la mort et un supposé acte révolutionnaire dans le suicide collectif. En 1977, un procureur de San Francisco déclenche une enquête de 6 semaines. Aussi surprenant que ce soit, elle est abandonnée sans charge à l'encontre de l'ordre. Pourtant, l'homme de justice découvre que le FBI, malgré des plaintes d'anciens membres, n'a jamais ouvert d'enquête. Le département des douanes, lui, a tenté de monter un dossier pour une contrebande d'armes à feu qui n'a rien donné. Enfin, les membres de l'église avec qui le procureur tente d'entrer en contact disparaissent mystérieusement du jour au lendemain. Bizarre. Mais sans preuve et avec des lacunes durant toute la procédure, on abandonne les poursuites. Jim Jones, depuis les tropiques, se croit tiré d'affaire. Il n'en est rien. Il engage un avocat réputé aux tendances marxistes et se sent à l'abri. Le feu sera pourtant mis aux poudres à la suite d'une procédure lancée par un couple ayant fait partie de la secte. Divorcés en 1977, ils essaient de reprendre à Jones leur fils, resté là-bas à la suite de leur départ. Le problème, c'est que le père a été contraint de rédiger une lettre stipulant que Jim Jones en est le père. Au Guyana, cet enfant est élevé comme un dieu, hors de question pour le gourou de le renvoyer aux États-Unis. À la suite d'une bataille judiciaire longue et pénible, le tribunal confirme que si Jones revient aux États-Unis sans remettre l'enfant à ses parents, il sera arrêté. À la fin de l'été 1978, il écrit au président Jimmy Carter une lettre de 5 pages visant à prouver qu'il est le père du petit. Il semblerait qu'en réalité, ce soit un énième mensonge de sa part. Durant l'été, la résistance de certaines familles de fidèles s'organise. De nombreuses lettres sont envoyées à l'administration du pays, en particulier aux représentants de la Californie au Congrès, Leo Ryan. Ce dernier, affolé par les témoignages qu'il recense dans son bureau, décide de mener son enquête. Il réclame le droit de se rendre au Guyana, beaucoup de fidèles faisant partie de sa juridiction. La mort mystérieuse d'un membre resté en Californie le pousse d'autant plus à agir. Tout s'accélère à l'automne. Ryan annonce son arrivée prochaine au gourou le 1er novembre. Dans le même temps, l'équipe de basket, dont l'un des fils Jones est le capitaine, part pour la capitale. Il échappera ainsi au massacre. La suite, vous la connaissez. Lors d'une visite sur place durant laquelle il récupère quelques membres voulant rentrer au pays, le membre du Congrès et des journalistes sont abattus sur le tarmac par un des lieutenants de Jones et par des renforts envoyés par le gourou pour faire place nette. La seule solution qui s'impose à Jones est la mort, craignant de voir une enquête le discréditer. Et de toute façon, il va mourir bientôt. Il décide donc de partir en emportant avec lui pas moins de 916 personnes. Seuls quelques rescapés parviendront à s'échapper. En arrivant sur les lieux le lendemain, dans un brouillard épais et malsain, un détachement de l'armée américaine s'attend à être accueilli par des tirs. Et c'est la mort, seule, qui les accueille. Les images aériennes des abords du hangar et celles prises sur place sont des plus effroyables. Des centaines de corps jonchent le sol, tués par balles ou empoisonnés. Un mois après le massacre, le temple perd son statut d'organisation religieuse. Sont alors mis au jour dans le monde entier les comptes en banque pleins à craquer. La fortune emmagasinée est colossale. Les rescapés du massacre continuent de penser que l'acte de se suicider n'est dû qu'au libre arbitre de ceux qui sont morts. Pour la plupart, quitter la secte fut même une effroyable tragédie, tant leur futur semble avoir été frappé d'infamie. En mars 1979, le responsable des relations publiques du temple se tire une balle dans la tête après une conférence de presse. L'ambassadeur du Guyana aux États-Unis, souvenez-vous, marié à une fidèle, tue toute sa famille en 1983 avant de se suicider. L'année suivante, un jeune homme dont les parents et les sœurs sont morts à Jonestown est lui-même l'auteur d'une fusillade dans une école avant de retourner son arme contre lui. Et la liste est encore longue. Pour les autres, une réinsertion dans la vie civile s'annonce difficile. L'ombre de Jim Jones continue de planer au-dessus d'une postérité morbide. Un groupe de rock, The Brian Jonestown Massacre, tire son nom des événements du Guyana. Le pays, les années suivantes, tire profit d'un tourisme noir qui vise à marcher sur les pas de Jones. Des séries, des films, des dizaines de livres sont publiés depuis la tragique journée de novembre, tant l'horreur et l'indicible ont régné ce jour-là. Aujourd'hui, l'organisation n'existe plus. Plus aucun détenu en ce moment aux États-Unis n'est lié de près ou de loin au temple. Même les auteurs de la fusillade du tarmac ont été libérés. On estime qu'ils ont subi un lavage de cerveau qui ne les rendait plus maîtres de leurs actions. Jim Jones n'est sans doute pas le premier homme d'église à descendre en enfer plutôt que de rejoindre les portes du paradis. Mais il ne fait aucun doute qu'au tréfonds des profondeurs, c'est lui qui règne sur la congrégation du diable, lunettes de soleil vissées sur le crâne. Voilà pour ce récit terrible que j'ai partagé avec vous, grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.